100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
Bonjour, Boris Johnson tente de sauver sa tête après une série de scandales, notamment des fêtes qui se seraient tenues à Downing Street pendant les différents confinements. Le Premier ministre britannique passe à la contre-attaque. Son gouvernement a gelé pour 2 ans la redevance audiovisuelle finançant la BBC. Et ce même gouvernement met en doute le maintien de cette redevance à plus long terme. Une annonce choc donc, mais pour le moment, Boris Johnson reste sous le feu des critiques. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Juliette.
Marie, on reproche à Boris Johnson ses fêtes, mais surtout sa gestion des scandales à répétition.
Oui, parce que l'existence de ces réjouissances, alors que les différents confinements les interdisaient, a commencé à émerger en décembre dernier. La première était une fête de Noël en décembre 2020, pendant que les Britanniques étaient privés de voir leurs proches. Boris Johnson a répété devant les médias et au Parlement « On m'a assuré qu'aucune règle n'avait été enfreinte ». Une petite pause pendant Noël et dès le retour des vacances, il y a 3 semaines, d'autres scandales ont éclaté sur d'autres fêtes. Et c'était même pire qu'avant, puisque Boris Johnson a dû avouer qu'il avait été présent à l'une d'elles, mais qu'il n'avait pas réalisé que c'était une fête. Il blâme la wine culture, l'habitude de boire à Downing Street, même pendant les heures de travail. Il s'est excusé parce qu'il s'est fait prendre, on dit beaucoup d'opposants, mais aussi des membres du Parti conservateur. D'ailleurs, juste après ce mea culpa, Boris Johnson est allé serrer des mains au Parlement en disant apparemment « Parfois on prend le crédit qu'on ne mérite pas et parfois on prend le blâme qu'on ne mérite pas. » Mais se débarrasser de conseillers et de fonctionnaires ne suffira pas pour beaucoup de ces désormais ex-partisans qui estiment maintenant qu'il est néfaste au parti tout entier, comme l'a dit une ex-ministre notamment.
Et pourtant, Marie, pourtant, Boris Johnson est toujours là.
Oui, il est toujours là parce qu'il n'y a personne pour le remplacer, mais aussi parce qu'à part 6 députés qui réclament sa tête publiquement, la plupart attendent les conclusions du rapport de l'enquête interne qui doit se pencher sur la dizaine de fêtes qui se seraient tenues à Downing Street depuis mars 2020. Les sondages montrent que l'opinion publique en veut beaucoup à Bojo et les électeurs pourraient le montrer dans les urnes lors des scrutins locaux de mai prochain. Mais d'autres se disent que Boris Johnson est celui par qui le Brexit est arrivé. Sans lui, il n'aurait peut-être jamais été négocié. Et si ce n'est pas le Brexit idéal, c'est un Brexit quand même, disent les eurosceptiques. Il y a de la gratitude et la peur que le Brexit soit vidé de son sens sans Boris Johnson. Certains d'ailleurs sont persuadés que la presse et les élites s'en prennent à Bojo uniquement parce qu'il a fait le Brexit. Le Premier ministre s'est fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps et les pirouettes habituelles ne le sauveront peut-être pas, mais son image de héros du Brexit pourrait lui accorder quelques mois de sursis et le temps de polir sa réputation.
Bojo, héros du Brexit pour le moment encore, donc pourtant les déçus du Brexit existent, les pêcheurs artisanaux notamment. Ils ont voté massivement pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais selon eux, le compte n'y est pas. On retrouve votre reportage, Marie Billon, auprès de ces petits patrons pêcheurs.
That's my boat over there, the Mayor Sarah Jane.
Martin regarde un peu hébété son bateau attaché au port de Ramsgate, sur la côte du sud-est de l'Angleterre. Il est pêcheur depuis 30 ans, mais il a dû déménager récemment.
Après le vote en faveur du Brexit, j'avais des rêves et des aspirations. Dans ce climat de confiance, j'ai acheté un bateau qui me faisait envie depuis 30 ans. Jusqu'à il y a quelques semaines, il était à New Haven, dans le sud, mais j'ai dû le bouger ici à Ramsgate pour fuir la concurrence avec les gros bateaux industriels.
Martin a donc abandonné la Manche pour la mer du Nord avec son nouveau bateau. Il avait acheté le Sarah Jane juste avant que Londres et Bruxelles ne s'accordent sur le traité du Brexit, un accord que Martin et de nombreux pêcheurs vivent comme une trahison.
J'y ai cru jusqu'à la dernière minute. Le Brexit qu'on nous avait promis permettait de récupérer la zone jusqu'à 12 000 marins des côtes, exclusivement pour les pêcheurs britanniques. Ils ont lâché au tout dernier moment.
Ce que Martin reproche au gouvernement britannique, c'est d'avoir accordé beaucoup de licences aux super chaluts et chalutiers de fonds européens qui lui font littéralement de l'ombre dans la Manche.
Ils m'ont transformé en nomade de la mer. Dès que je les vois, il faut que je m'en aille. Je suis obligé de vivre sur mon bateau, à la dure. Je ne peux pas rester dans leur parage parce qu'ils sont tellement efficaces qu'il n'y a plus de poissons à pêcher pour nous.
Sur le port de Ramsgate, Martin retrouve John Nicholls. Aujourd'hui à la retraite, il reste le président de l'association des pêcheurs de la région de Thanet. Ensemble, en septembre, ils ont signé une lettre ouverte sous l'égide de Greenpeace adressée au gouvernement britannique. Il lui demande d'interdire à certains gros bateaux de lancer leurs grands filets dans la Manche ou bien de les restreindre à des zones précises.
La pêche industrielle dans la Manche nous inquiète beaucoup. Le Channel n'est pas très grand. Il ne peut pas continuer à subir les dégâts que cette pêche intensive lui impose. Ce sont surtout des bateaux danois qui n'ont plus le droit de pratiquer la pêche électrique, mais sont devenus des chalutiers de fond. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. Nous parlons de la conservation des milieux marins et de la survie des petits pêcheurs britanniques.
Mais le fait est que John espérait reprendre le contrôle des eaux britanniques et que le Brexit de Boris Johnson rend cela impossible.
La Commission se bat vraiment pour les pêcheurs européens. Notre gouvernement, lui, a tendance à céder. Donc, je suis plus critique et déçu par Londres. Nous voulions que notre gouvernement reprenne le contrôle des eaux britanniques, ce qui ne veut pas dire que les Européens n'auraient pas pu pêcher chez nous, mais ils auraient eu le droit de le faire sous notre contrôle.
John et Martin semblent persuadés que Londres aurait pu donner la priorité à la conservation et à la protection des réserves de poissons. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'appeler à la coopération internationale au nom de l'écologie marine à travers Greenpeace. Au plus haut des tensions entre Londres et Paris, Martin a même tenu à envoyer un message à ses confrères de l'autre côté de la Manche.
Nous faisons appel à la solidarité.
Martin avait prévu qu'il n'arriverait pas à tout dire, alors il a demandé de l'aide à un traducteur électronique.
Nous faisons appel à la solidarité de nos frères et sœurs, les pêcheurs artisanaux de France, avec qui nous avons bien plus en commun qu'avec les scènes danoises et les pêcheurs industriels.
Je voulais faire passer le message car je n'ai aucun problème avec les pêcheurs artisanaux français parce qu'ils sont comme nous. Comme nous, ils ne vont pas pêcher plus que nécessaire. Ils respectent l'environnement. Ils vendent leurs poissons au marché ou sur le quai comme nous voudrions le faire. Pourquoi je critiquerais ce mode de vie? C'est ce à quoi j'aspire.
Martin et John estiment aussi que certains quotas sont équivalents à de la surpêche, car ils s'appuient sur des données dépassées. Là encore, ils assurent que ce n'est pas politique, mais uniquement pour préserver les fonds marins.
L'Europe stand for freedom. Freedom to live as you wish to live.
C'est tout un symbole. Le Parlement européen vient d'élire à sa tête Roberta Metsola en remplacement de Davide Sassoli, décédé la semaine dernière. La Maltaise est une opposante à l'avortement. Tout un symbole, donc, puisqu'elle occupe la place de Simone Veil, élue en 1979 à la tête de l'institution. La Française, qui, il y a 47 ans et un jour, faisait voter par les parlementaires français la loi sur l'IVG. Changement d'époque, c'est donc une conservatrice qui est maintenant présidente du Parlement européen. Le portrait de Roberta Metsola avec Anastasia Becchio.
Une mère de famille nombreuse au fourneau, entourée de son mari et de ses quatre turbulents garçons, voilà comment apparaît Roberta Metsola dans les premières minutes d'un documentaire publié sur son site officiel.
C'est une bolognaise. Je l'ai cuisinée hier parce que je n'aurais pas eu le temps aujourd'hui après le Parlement. Et ça, c'est du poulet pour demain parce que sinon mon mari va paniquer si je le laisse comme ça avec les enfants. Mon mari fait beaucoup. Nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions tous deux étudiants en sciences politiques.
Passant sans transition de l'anglais au maltais, Roberta Metsola affiche dans cette vidéo l'image d'une jeune quadragénaire dynamique séduite par l'idée européenne depuis son plus jeune âge. Elle obtient son diplôme de droit à l'Université de Malte en 2003, l'année où l'île décide de rejoindre l'Union européenne. Elle étudie ensuite au Collège d'Europe à Bruges et brigue sans succès un premier mandat d'eurodéputée. Elle s'y reprendra deux fois et deviendra finalement élue en 2013. En attendant son heure, elle a occupé plusieurs postes au sein des institutions européennes dont elle connaît tous les rouages.
Même si elle vient d'un petit pays membre, elle connaît tous les détails de la politique européenne.
Andreas Schwab, eurodéputé allemand du Parti populaire européen, ne tarit pas d'éloges sur sa collègue.
Elle est une collègue excellente. Elle a travaillé déjà dans plusieurs commissions du Parlement européen. Elle a fait preuve d'une intelligence remarquable. Elle a investi beaucoup dans un certain nombre de questions spécifiques. Elle a essayé de défendre la liberté d'expression. C'est une femme, une mère de famille, qui a démontré qu'elle sera capable de faire face à une demande d'être la présidente de tous les collègues du Parlement européen. européen.
Chef de file du Parti nationaliste maltais au Parlement européen, Roberta Metsola a été élue vice-présidente de l'hémicycle l'an dernier et c'est elle qui assure l'intérim depuis la disparition de David Sassoli.
Les femmes qui nous ont précédées nous ont ouvert la voie à moi et d'autres femmes. Je plaide pour que l'on continue d'élargir cette voie pour les femmes d'aujourd'hui et de demain.
Engagée pour les droits des personnes LGBT, en lutte contre la corruption et le clientélisme à Malte, défenseuse du droit d'asile et de l'état de droit, Roberta Metsola pourrait passer pour très progressiste au sein de son parti, à un détail près.
Elle est contre l'avortement.
Aurore Laluc, eurodéputée française du groupe des socialistes et démocrates, s'inquiète de l'image que pourrait donner le Parlement en élisant à sa tête une personnalité opposée à l'IVG.
Ça envoie un mauvais signal, d'autant que on avait Simone Veil, en tant que présidente du Parlement européen, qui était évidemment la figure aussi du droit à l'avortement. Donc je trouve que le signal envoyé n'est pas bon, même si c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a plein de qualités, Roberta Metsola. Elle est très agréable et c'est quelqu'un qui peut avoir des positions fortes sur d'autres sujets. Et c'est quelqu'un qui sait aller dialoguer et respecter et écouter la parole des autres. Ça, c'est très important au niveau européen, vu qu'on est dans du compromis en permanence. C'est très, très important. Mais néanmoins, moi, dans mes tripes, je ne peux pas mettre un bulletin pour quelqu'un qui peut voter contre, par exemple, une résolution pour défendre les femmes en Pologne suite à la quasi-interdiction du droit d'avortement là-bas.
Malgré les réserves, donc, la conservatrice maltaise a été élue ce matin dès le premier tour de scrutin. En Serbie, comme dans la plupart des pays européens, la communauté rome reste très marginalisée. Beaucoup de jeunes sont déscolarisés, parfois à la rue. Le café-bar 16 est un lieu unique à Belgrade. Il a permis à plusieurs dizaines de jeunes roms de sortir de la rue en leur proposant notamment des formations. C'est un reportage de Louis Seyé.
Si elle ne maîtrise pas encore toutes les recettes des cocktails, le café n'a plus de secret pour Giulia Cupilli. Malgré les réticences de sa famille, cette jeune Rome de 17 ans a décidé d'abandonner la rue et la mendicité. Elle suit désormais une formation de serveuse au Café Bar 16, un café à vocation sociale situé dans l'une des rues les plus branchées de Belgrade.
Ici, c'est plus facile pour apprendre des choses parce qu'on a plus de temps pour vraiment s'entraîner. On passe plus de temps à répéter les gestes et les méthodes que l'on doit suivre. On s'entraîne tous les jours et on répète les gestes jusqu'à ce qu'on les maîtrise bien.
Apprendre un métier comme celui de serveur, mais aussi à gérer l'argent, respecter des horaires et conserver une certaine discipline. Les formations que propose l'ONG Centre pour l'intégration des jeunes relèvent bien plus que du simple champ professionnel. L'animatrice Jelica Sokolovic se considère ainsi presque comme une grande sœur pour les jeunes Roms qu'elle forme pendant 6 mois.
On fait bien plus que de l'éducation avec ces jeunes. On discute avec eux des problèmes qu'ils rencontrent concrètement dans leur vie quotidienne. Mais on agit aussi physiquement, car on doit parfois les emmener à l'école ou sur leur lieu de travail. On est aussi régulièrement en contact avec leurs employeurs. On s'occupe aussi de leur hygiène et on essaye de répondre à leurs besoins. En fait, on est bien plus qu'un espace d'accompagnement social, car les aspects que nous couvrons sont vraiment divers.
À l'image de cette jeune fille et son petit frère, obligés de mendier dans les rues de Belgrade, le Centre pour l'intégration des jeunes essaie de lutter contre la marginalisation de la jeunesse rome.
Ce sont des enfants qui travaillent dans la rue. Ils vont dans les cafés et les restaurants de la ville pour demander de l'argent aux clients. Je leur ai dit qu'ils pouvaient entrer dans notre café pour boire un jus de fruits et je leur ai expliqué ce qu'on faisait ici. On a l'habitude que les enfants soient méfiants quand on les invite au début, mais quand ils nous connaissent un peu mieux, ils viennent voir de plus près ce qu'on fait et ce qu'ils peuvent obtenir.
Sortir les enfants des rues et leur permettre de gagner leur autonomie grâce au travail, c'est le principal défi du Centre pour l'intégration des jeunes que dirige Jasna Braticevic. À 16 ans, les jeunes Roms n'ont plus droit au service du refuge que gère son ONG. C'est pour remédier à cette situation que le café Bar 16 a vu le jour en 2017. Depuis son ouverture, ce café social a formé une cinquantaine de jeunes. Entre 150 000 et 600 000 Roms vivent en Serbie. Comme dans beaucoup de pays d'Europe, la communauté est particulièrement discriminée et oubliée par l'État.
La communauté rome à Belgrade et dans toute la Serbie vit généralement dans des conditions très difficiles, en particulier ceux qui vivent dans les quartiers informels. Ces personnes vivent dans l'extrême pauvreté, leurs habitations de fortune ne sont pas légalisées, ce qui leur cause souvent beaucoup de problèmes avec leurs papiers d'identité. La plupart des enfants ne vont pas à l'école. Ils ont une relation difficile avec les institutions. Et les institutions ne les reconnaissent pas. Ils sont particulièrement exposés aux discriminations.
À tout juste 19 ans, Albert Matic est déjà une star en Serbie. Formé au Café Bar 16, ce jeune homme, toujours souriant, est régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour raconter son parcours. Lui aussi a connu le travail dans la rue.
Quand j'ai vu ses frères et sœurs tout à l'heure, c'était comme regarder une photo de moi quand je travaillais dans les rues, comme eux. Je sais que la rue n'est pas un endroit sûr, ni pour nous, ni pour eux. Je leur ai dit de contacter le Centre pour l'intégration des jeunes pour qu'ils obtiennent des conseils.
Grâce au Café Bar 16, Albert n'a pas seulement appris un métier, il a gagné son indépendance. Son salaire de barman lui permet aujourd'hui de louer son propre appartement dans la capitale serbe.
Le jour où j'ai commencé à travailler ici, au Café Bar 16, tout a bien démarré. J'ai réussi à résoudre mes problèmes de papier et j'ai commencé tout de suite à apprendre le métier de barman. Aujourd'hui, même mes parents sont contents que j'ai un travail car je gagne ma vie, je peux vivre de façon indépendante. Et ma mère me reproche même de dépenser mon argent pour des bêtises. C'est ma mère.
Menacé de fermeture à cause des conséquences de la pandémie, le Café Bar 16 a pu compter sur la générosité des Belgradois. L'appel à financement participatif a été un succès. En moins d'une semaine, l'ONG a récolté la somme nécessaire à son fonctionnement.
On reste dans l'évocation des Balkans, le cœur de l'Europe, avec le retour sur les écrans français de Dusan Makaveyev. Ses trois premiers longs métrages sont actuellement à l'affiche en version restaurée. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette figure de la nouvelle vague des années 60 qui a aussi submergé les cinémas à l'est de l'Europe, Simon Rico.
Pour les cinéphiles du monde entier, Dusan Makaveyev est loin d'être un inconnu. Beaucoup se souviennent de Sweet Movie, films baroques et foutraques, restés dans les annales pour la scène où l'on voit Carol Laure se rouler dans une mare de chocolat. Mais ce long métrage sorti en 1974, quand le cinéaste se trouvait en exil forcé après avoir été censuré par le régime socialiste yougoslave, ne doit pas faire oublier ses œuvres de jeunesse tournées dans la fédération du maréchal Tito. Né à Belgrade en 1932 et mort dans la même ville en 2019, Dusan Makaveyev était l'un des chefs de file du nouveau cinéma yougoslave, l'équivalent local de la Nouvelle Vague, un courant que les autorités locales avaient fini par qualifier de « vague noire » pour dénoncer sa critique nihiliste du socialisme triomphant. À l'instar de ses contemporains les plus connus, Aleksandar Petrovitch ou Jivojin Pavlovitch, Dusan Makaveyev n'hésitait pas à égratigner le mythe titiste, mais avec un goût prononcé pour le bizarre, l'absurde et l'érotisme, forcément politique, comme chez Buñuel. Bien avant Emir Kusturica, Makaveyev célébrait déjà les plaisirs de la vie et de la chair avec une audace formelle bien plus subtile. L'homme n'est pas un oiseau, une affaire de cœur et innocence sans protection. Ces trois films qui ressortent aujourd'hui en salle révèlent son style très personnel, punk avant l'heure, oscillant entre surréalisme et néoréalisme à l'italienne, avec une narration de plus en plus déconstruite, montage-collage qui passe du coq à l'âne, juxtaposition de fiction et de documentaire, ou noir et blanc se colorisant. Les choses ne sont pas organisées selon un ordre moral, résumait Dusan Makaveyev, adepte d'une poésie carnavalesque.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur rfi.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.